taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour Monsieur Edmond, après un petit temps d'absence, nous voici de retour, c'est Je m'ennuie bien.
Oui, bonsoir à tous. Vous faites un drôle de bruit, non, Madame Henriette ? On dirait un canard.
Eh oui, mais c'est l'âge, qu'est-ce que vous voulez ?
Coin, coin !
Non, alors me lancez pas sur les canards.
Pourquoi voulez-vous nous parler des canards, des journaux ?
Ah oui, alors a priori, vous n'avez pas l'image, vous, monsieur Edmond, mais monsieur Kogan a reçu un canard d'une inspiration assez étonnante. Un canard calavera, c'est ça, hein, un canard mexicain, fête des morts.
Un truc comme ça, quoi. Voilà. Ouais, voilà. À force de chanter, je collectionne des canards, vous voyez cette chanson magnifique.
Oui, mais c'est je collectionne des canards vivants, le vôtre n'est ni vivant ni mort, c'est un objet.
C'est ça.
Très bien, très bien. Bon, alors, effectivement, chers amis auditeurs de Je m'ennuie bien, ça fait un petit moment que nous nous étions vus. On remercie Zeus et la foudre.
Et oui, et on fait un petit hommage à Fauve. Tu nous entends, l'orage ? Tu nous entends ? Voilà, non, en fait.
À Fauve, le groupe horrible, qui chantait à une époque ?
Voilà.
Ok, bon, c'est super, Madame Henriette, merci de nous avoir rappelé ce pénible...
C'est pour que vous arrêtiez de vous dire que c'était mieux avant. Non, il y avait Fauve.
Moi, je croyais que vous alliez rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé pour rétablir les connexions, mais bon, tant pis. Alors, mais du coup, j'ai quand même gardé une vieille citation, je dois bien le dire, de M. Jordan.
Jordan.
Bah, le bar...
Ah ben non, écoutez...
Le barde est là.
À un moment donné, soit vous êtes assez intime pour l'appeler par son prénom, soit il a un prénom et un nom.
Et donc, vous savez que ces gens-là fêtent Jeanne d'Arc, visiblement sans avoir aucune idée de ce que la pauvre dame a vécu. Enfin, la dame, même pas une dame, cette jeune fille a vécu. Et donc, il a déclaré à l'occasion de cette commémoration, je ne sais pas comment ils appellent ça, « Lorsque tout semblait perdu, Jeanne d'Arc a refusé de renoncer comme elle. » Rallumons une flamme, celle de la nation qui refuse de s'éteindre. Et là, je ne sais pas. Je me dis, c'est du 8e degré. Qu'est-ce que c'est ? Bon.
Trèfle de plaisanterie.
Là. Oui, c'est ça. On ne peut pas être au courant de tout. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Ce gars est exceptionnel. Bon.
Alors, on en avait parlé. Cette pauvre Shakira avait eu beaucoup d'ennuis en Espagne.
Cette pauvre Shakira, oui. Alors pauvre n'est peut-être pas le
Non, terme, vous allez voir d'ailleurs. Et là, elle revient en grande forme, puisque d'abord ce titre, Shakira fait le plein à Rio de Janeiro. 2 millions de personnes ont assisté à son méga concert selon la mairie. Alors BTS, ils peuvent aller se rhabiller, hein, excusez-moi, mais bon.
Bon, ils sont pas tout nus. Hein.
Non, mais ils étaient ridicules, hein. ils ont fait je ne sais plus combien à Séoul, mais ils n'avaient pas 2 millions de personnes. Hein.
Ouais. Bon, enfin bref, c'est pas pour défendre spécialement BTS, mais dans des conditions de contraintes en matière de sécurité particulièrement tendues.
Bon, en tout cas, voilà, c'est un concert, on peut dire, je sais pas d'ailleurs, 2 millions de personnes, je sais pas qui a réellement vu Shakira, parce que là, ça commence à faire beaucoup de monde. Deuxième titre, La Justice, et c'est un titre d'El País. La justice ordonne au Trésor public de rembourser plus de 60 millions d'euros à Shakira. Comme quoi, elle a bien fait de porter ses déboires en justice, hein, puisque visiblement, le fisc espagnol, bon, ben, je sais pas, leur dossier n'était pas assez complet. Hein.
C'était l'histoire des jours de présence dans le pays.
Écoutez, je ne sais pas, mais bon, 60 millions à rembourser, ça va faire un petit trou, je ne sais pas qui va payer. Les masques tombent. Cette photo me hante depuis 23 ans. Le curé star du calendrier des prêtres sexy est en réalité un steward. qui à l'époque avait rencontré donc un photographe qui lui avait dit « Mais tu veux pas t'habiller en curé, puis on fera une photo un peu sexy. » Voilà. Et ça s'était vendu comme des petits pains. Et je dois dire que pour être passé à Rome récemment, eh bien, ces calendriers des sommités du Vatican sont toujours en vente. Alors, est-ce qu'il y a toujours des stewards dedans? Je ne sais pas.
Mais ils sont en habit ou pas?
Ah ben ça, je n'ai pas ouvert, Madame Henriette. Je ne m'intéressais pas assez à la question. Écoutez, vous l'achèterez, je ne sais pas.
Alors, les auditrices et les auditeurs devraient voir le brillant de l'œil de Madame Henriette quand elle dit cela.
Non, mais...
Qu'est-ce que vous avez sous la soutane?
Pas vraiment, parce que bon, l'âge moyen de la hiérarchie du Vatican n'incite pas. Voilà.
Non, mais il y a quelques jeunes curés. Là, à l'époque, il était très jeune quand il avait fait ça. Donc, voilà.
Vous avez vu les calendriers, donc on vous demande.
Ah, mais il y en a des très jeunes. Hein, ceux qui mettent, évidemment, en une, c'est pas des vieux. Hein, c'est des vieux barbons.
C'est pas comme nous. Allez.
Non, ce sont des jeunes. Bon, ben voilà. Mais alors, sachez que c'est peut-être pas un vrai curé.
Ah oui.
Voilà, vous venez de plonger nos auditeurs dans la consternation.
Démasqué numéro 2. Eh oui, parce que là, il y en a eu beaucoup qui ont été démasqués. En Franche-Comté, Monsieur Kogan, le professeur qui s'était inventé une médaille d'or de philologie a été renvoyé de l'université.
Oui, j'avais suivi et c'est de mérité, là.
Ouais, d'accord. Bah, c'est quand même bizarre, non? Parce que si on quitte à s'inventer un truc, pourquoi une médaille d'or de philologie?
Ah, parce que le mec voulait exister, qu'est-ce que je vous dis? Et puis en plus, il avait trouvé une niche.
Oui, parce que comme personne...
personne ne savait ce que
voilà,
c'était.
Voilà, comme personne ne sait ce que c'est, bon...
Bah, tout le monde aime bien dire « Ah oui, le grand philologue Tolkien », etc. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Donc c'est assez amusant. Oui.
Bon, allez... Ce titre, parce que finalement, Donald Trump, on l'adore. Et ce qu'on aime surtout, c'est sa politesse. On l'a vu quand il reçoit les gens à la Maison-Blanche.
Une exquise courtoisie.
Alors j'imagine, puisque maintenant les journaux français, ils font même, il y a même certaines émissions, ils ne parlent plus que des USA, à croire qu'on vit à New York. Et donc, quand il est parti de Chine, évidemment, Trump a dit « Oh là là, magnifique, un voyage super, Xi Jinping absolument un hôte admirable, tout va bien, on est les meilleurs amis du monde. » Je vous lis ce titre. « Visite de Trump en Chine. La délégation américaine a jeté tous les objets chinois avant de remonter dans l'avion. » Ah, la confiance, elle est belle quand même.
Faites des cadeaux, hein.
J'aurais fait la même chose. Hein.
Bravo, monsieur Coquette. Math niveau CM2. Alors, je ne vais pas vous parler du brevet, mais on aurait pu quand même. Trump et son ministre de la Santé incapables de calculer un simple pourcentage. Je rappelle que son ministre de la Santé, c'est Robert F. Kennedy Jr., qui, ma foi, je ne sais pas, il va peser un peu sur la famille, sur le prestige de la famille, en tout cas. Alors, j'aime bien aussi, on en finira avec Trump sur ça, il a beaucoup parlé des tests qui passaient, parce que bon, tout le monde le trouve gâteux, ou fou, ou vraiment débile, et donc il passe des tests de temps en temps à la Maison-Blanche. Alors évidemment, il n'y a personne pour être là pour vérifier, mais bon. Et donc, il a dit quand même, j'ai réussi très facilement la première question. Il y avait un lion, un ours, un alligator et un écureuil, et la question c'était, où est l'écureuil? Il est fort quand même.
Pas mal. Pas mal, en effet.
Du gros, gros niveau, les tests. Hein.
Nous voici tout à fait rassurés.
Allez, chers amis, vous savez qu'il faut rétablir l'ordre. Et pour ça, à Singapour, eh bien, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je peux dire, même si vous verrez, il ne s'agit pas de cuillère. Puisqu'à Singapour, les élèves harceleurs pourront désormais être punis à coups de bâton. Voilà, c'est pas mal.
Ça ne nous dit pas si le châtiment est public ou pas.
Non, ça, j'ai pas les détails, je suis pas allé voir les détails. Vous m'envoyez navré, Madame Henriette. Alors, un titre que j'avais fait tourner dans notre boucle interne, mais quand même, je suis obligé de le donner parce qu'il est tellement beau. Et puis, on dira après où c'était. Parce que Monsieur Kogan, évidemment, avait flairé le loup. Bébé alcoolisé dans une crèche. Un incident isolé, assure le groupe People and Baby. Oui, alors tant mieux, j'ai envie de dire. Et Madame Henriette connaît bien l'endroit. Non, mais faites pas cette tête, c'est pas grave. Ben, allez-y.
Ah non, allez-y. Ah, oui,
c'était dans l'Oise, voilà. Ami Oisien, bonsoir.
Oui. Est-ce qu'il vous reste encore un ami dans l'Oise ? J'en suis pas sûr.
Ah, est-ce qu'on a jamais eu des... Est-ce qu'on peut se faire des amis dans l'Oise, déjà ? Oh, un chaud picard peut-être. Bon, allez. Un petit titre pour faire plaisir à Madame Henriette, puisque ça parle d'animaux. D'abord, cette enquête très poussée de Mediapart, qui malheureusement m'a fait pleurer. Parce que j'ai appris que Sophie la girafe, un mensonge made in China. Et oui, alors qu'il continuait de mettre sur les boîtes que c'était fait en France, eh bien, visiblement... Et évidemment, l'enquête de la DGCCRF est en cours, hein, parce que bon. Après son remorquage depuis l'Allemagne, une baleine à bosse échouée depuis des semaines a été relâchée en mer du Nord, Madame Henriette.
Ça veut dire qu'elle a survécu pendant des semaines.
Ouais. Ouais.
Oui, mais vous n'avez pas suivi la fin, je crois.
Non, j'ai pas regardé la fin. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a pas.
Bah non.
Et ouais, mais la mer du Nord, c'est très froid aussi. Pourquoi ils l'ont mis là-bas ?
Mais elle était de là-bas.
Non, mais je sais bien, monsieur Coq. Elle n'a pas survécu. Bon, bah, alors, paix à la baleine. Et ce titre, pourtant, c'est Le Monde, mais il était tourné un peu bizarrement. En cas de crise d'asthme, de nombreux patients inhalent du vent en croyant prendre de la ventoline. Eh oui, parce qu'apparemment, leur petite pchit, là, vous savez, vous avez tous vu peut-être des gens qui, des fois, ont des crises d'asthme. Et en fait, quand c'est fini, il n'y a rien qui l'indique.
Et oui, en fait, il y a encore du gaz, mais il n'y a plus de produit.
Et ouais. Donc, ils sont en train d'essayer de voir s'ils ne pourraient pas faire mieux quand même. Un interlocuteur facile d'accès, un tiers des 11-25 ans, un tiers quand même, considère l'IA comme un psy, selon une étude. Ça fera plaisir aux psys, hein, de
oui,
savoir
c'est
que
ça,
bon,
c'est...
finalement... Bon,
c'est légèrement dévalorisant.
Une machine, ça fera aussi bien le taf.
Il semblerait qu'un cinquième des électeurs soit servi de l'IA pour savoir ce qu'il devait voter au municipal.
Non, non, monsieur Kogan, s'il vous plaît, écoutez, on est déjà déprimé, il ne faudrait pas en rajouter. Hein.
Alors, un peu moins d'un cinquième.
C'est vrai ?
Un peu moins d'un cinquième, mais quand même.
C'est-à-dire, les mecs, ils sont allés taper pour qui je dois voter au municipal ?
Mais ça...
Peut-être en seconde commune, en plus ?
Voilà, ça vous dit comment, dans les années à venir, l'IA pourra gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
Et alors, comment ils font, ceux qui se sont abstenus ? Bon, d'accord, ok. L'IA a dit, oh, je sais pas, t'as qu'à t'abstenir.
Ils ont posé la question à leur poisson rouge, d'où l'abstention.
Oh là 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 là, mais quelle misère.
On peut le dire ça.
C'était bien la peine, toutes ces années d'évolution.
Pour en arriver là.
Bah ouais, c'est bon. Allez, je voulais vous parler d'Elios. Oui, Madame Henriette, comment ça ? Vous ne connaissez pas Elios ?
Pas personnellement, non.
Le logiciel de comptabilité publique ?
Moi, je le déplore.
Eh ben, je le vois.
Des heures d'amusement en perspective, en effet.
Et alors, ce petit logiciel vraiment très rigolo a donné des sueurs froides au ministère de l'économie le 5 février dernier. On a quelques détails maintenant.
Un seul jour, ça va.
Non, non. Ce jour-là, c'est là où ça a commencé, les sueurs froides. Mais vous allez voir que ça a duré un peu plus longtemps. Puisque donc, Elios, il est utilisé quand même par 50 000 agents publics. Puisqu'il permet notamment de payer un certain nombre de fonctionnaires et puis des factures, des créances. Alors, en gros, chaque mois, il débourse 8 milliards d'euros. Hein ? Donc, pas une paille. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le 5 février, Elios, tout d'un coup ? Eh bien, il se met à déconner totalement et la moitié des utilisateurs ne peuvent plus transmettre ni mandat, ni payer, consulter la trésorerie, ni même boucler les budgets des communes. Ah ! Et l'autre moitié des agents, ça commence, ce qu'ils aiment bien, vous savez quand on parle de logiciel, en fonctionnement dégradé. Voilà, c'est-à-dire que vous faites un clic et vous attendez 10 minutes qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est le fonctionnement dégradé. Et au bout de quelques jours, plus rien du tout. Alors là, c'était très, très dégradé. Alors évidemment, au ministère, à Bercy, là, il commence à... Ouh, et comment on va payer les fonctionnaires à la fin du mois si c'est pas rétabli ? Où est la panne, machin ? Et donc, ils ont trouvé la panne. C'était un module de stockage informatique installé par Hitachi à Metz. Alors, le mot important dans cette phrase, c'est évidemment Hitachi. puisque les mecs, vous leur avez acheté le module de stockage, mais ils ont gardé tous les brevets. Il n'y a qu'eux qui savent le dépanner, le machin, le bidule. Donc, tant que vous n'avez pas un professionnel de chez Hitachi, ben, vous n'avez pas de réparation. Voilà. Donc, le mec, il est venu. Ça a peut-être pris un peu de temps. Alors, bien sûr, il s'est excusé. Il ne comprend pas. En 2 ans, c'est la première fois que ça arrive sur tous les modules installés, machin, bidule. Non, pardon, le matériel avait moins de 2 ans. Donc, bon. En tout cas, bon. Les mecs de Bercy se disent, bon, le technicien est arrivé, ça va être réglé en 48 heures. Eh ben, pas du tout. Ça a commencé le 5 février et la panne a été résolue le 17. 12 jours pendant lequel, donc, si je comprends bien, 50 000 agents publics se sont tournés les pouces.
Oh ben...
Alors là, bravo, hein, la France au travail, bravo.
Je me demandais où vous vouliez en venir.
Non, bon, alors évidemment, après, il a fallu retravailler, rattraper tout ce temps perdu, hein, parce qu'il y avait les payes à faire, les machins, les fournisseurs. Et donc,
le budget des communes, d'après ce que vous indiquez.
Le budget des communes. Et donc, évidemment, eh bien, le dépassement du délai réglementaire pour payer, hein, l'État a quand même des délais normalement pour vous payer quand vous avez... envoyer une facture à l'État en tant que fournisseur ou prestataire. Bon, ben là, c'est monté jusqu'à 30% pour les collectivités locales et 54% pour les établissements de santé, puisque certains établissements de santé, évidemment, dépendent aussi de ce cher Elios. Alors, sauf l'assistance publique de Paris, qui est visiblement un autre logiciel et qui, pour une fois, a dû s'en féliciter. Alors, bien, 2 députés avaient enquêté sur cette panne.
Et là, on peut faire des jeux de mots pourris. Elios, c'était pas brillant. Enfin, voilà.
Merci, Madame Henriette.
Voilà, Elios n'avait pas la lumière à tous les étages.
Ouais. Non, mais vous arrêtez parce que le sujet est brûlant, quand même.
Oh.
Et alors, il y a donc, notamment donc, les 2 députés qui ont regardé ça d'un peu plus près. Ils se sont dit, si ça arrive tous les 4 matins, peut-être un jour, on va vraiment être mal. Et donc... il y a Jacques Auberti, député socialiste de la Haute-Garonne, et sa collègue écologiste Christine Arrigui, également élue en Haute-Garonne. Donc, ils ont fait tout un texte pour expliquer ce qui se passe. Et ils se sont aperçus que la dépendance à des matériels dont nous ne maîtrisons ni le code, ni la conception, ni les défaillances, eh bien, est assez importante. Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce qu'a fait notre cher Premier ministre? Eh bien, il a dit, c'est pas grave, on va débloquer 200 millions... Et puis, tout va aller mieux. Alors, je ne sais pas comment c'est évalué, ça, parce que vu les pannes et les machins, et puis pour dire on va changer tout le système ou quoi, ou se protéger mieux, hein, parce qu'évidemment, peu de temps après, vous avez tous entendu parler de l'Agence nationale des titres sécurisée, qui s'est fait hacker. Bon, ben voilà. Hein, c'est voilà. Alors, 200 millions pour sécuriser tout ça, je ne sais pas, moi, si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Ça fait un peu peur, quand même. Allez, je passe la parole au soleil de cette émission, Madame Henriette.
Merci pour ce lancement. Je vais vous parler de sport et je vais vous parler de football. Incroyable.
Vous ne sentez pas bien?
Je vous amène en Corée du Sud.
Ah ouais, ça cachait quelque chose, évidemment.
Où se déroule un championnat de football féminin et l'événement... ça se passe à Suwon, hein, donc c'est à 30 km au sud de Séoul. Et l'événement, c'est que le club de Suwon, pour le quart de finale, il me semble, a reçu une équipe nord-coréenne, le Naegyeongyang Women Football Club. Alors, Naegyeongyang, pardon. Naegyeongyang, c'est pas une ville, hein, c'est une grande entreprise publique qui vend de l'alimentation et du tabac. Voilà.
Donc, et donc, l'équipe de foot a eu le droit de sortir de Corée pour aller faire un match
de foot
chez les ennemis
Exactement. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que ça intervient dans un contexte très, très tendu entre les deux Corées, puisque le dirigeant nord-coréen vient de retirer de la constitution nord-coréenne la réunification des deux Corées comme objectif. Et a qualifié la Corée du Sud de plus grand ennemi de la Corée du Nord. Donc, c'était un moment un peu particulier. Donc, ces footballeuses ont été accueillies avec énormément d'enthousiasme par les Sud-Coréens à l'aéroport. Elles ont un peu douché tout le monde en exprimant à peu près rien. Voilà. Elles sont passées... sans un signe de quoi que ce soit. Et elles se sont quand même lâchées hein, en fin de match, puisqu'elles ont gagné ce match. Voilà. Elles ont remporté le match contre la
Corée. C'est-à-dire, si elles ne voulaient pas prendre une balle au retour.
Voilà, donc elles avaient indiqué, hein, la capitaine de l'équipe avait indiqué avant le match qu'elles essaieraient de se montrer à la hauteur des attentes qui avaient été placées en elles par, voilà, par leur pays. Donc, bon. Il y avait assez peu de suspense quand même, parce qu'il y avait déjà eu un match il y a quelques mois entre ces deux équipes et l'équipe de Corée du Nord avait gagné 3-0. Là, ça a été un petit peu plus difficile puisque c'était, le score final a été de 2-1 et donc l'équipe nord-coréenne affrontera une équipe donc japonaise, c'est le Tokyo Verdy Beleza.
Eh ben, au moins, elle voyage.
Voilà.
Et de temps en temps, ils vont jouer en Corée du Nord ou c'est à chaque fois l'équipe de Corée
c'est
du Nord
prévu.
Qui se déplace? Ah oui, d'accord. Oui.
C'est pas prévu là. Les matchs vont se jouer le match
au Japon.
Non, il se jouera à Suwon également.
D'accord. Ok.
Voilà. Bon, ça c'était l'info sympa, l'info un peu moins sympa ou en tout cas, il y en a un qui a gagné sa journée. C'est le PDG de Starbucks Korea qui.
Starbucks.
Starbucks,
café, là.
Vous savez, le truc où on paie ses cafés très très cher.
Ouais.
Alors, Son Jung-yoon, PDG donc, de la société qui exploite Starbucks en Corée, a été donc licencié car
il vendait pas assez de café.
Alors non, c'est pire que ça. Ils ont lancé une campagne marketing qui a été considérée comme de très, très mauvais goût, voire parfaitement insultante, puisque pour le 18 mai, commémoration du soulèvement de Gwangju, autrement appelé le massacre de Gwangju, hein, c'était une énorme manifestation pro-démocratique.
Des jeunes, c'est ça ? Des très jeunes, en plus ?
En mai de 1980, une manifestation d'étudiants rejointe par des ouvriers, plus de 150 000 personnes, il y a eu une répression sanglante. Les comptes officiels, énormément de disparus, évidemment, on n'a jamais retrouvé les corps. Les comptes officiels ont parlé de 200 morts. Les ONG parlent plutôt de 2000. Vous vous doutez que c'est
un petit traumatisme.
Voilà, dans la mémoire collective des Coréens, ce n'est quand même pas voilà.
Alors donnez-nous cette campagne là. Qu'est-ce qu'ils
alors,
ont fait alors pour vendre leur café ?
Ils se sont pris très malins de lancer donc une campagne marketing le même jour et a priori en référence à ces événements, ils l'ont appelé Tank Day. C'était pas extrêmement malin. Hein ?
Le jour du tank.
Ouais,
mais c'était pour le gobelet peut-être, parce que le tank c'est aussi le réservoir.
Voilà, alors ils offraient ou ils vendaient, je ne sais pas, des gobelets qui sont censés être très solides. Mais Tank Day, quand on sait que l'armée avait des tanks... C'est...
Pour écraser les étudiants, ok.
Enfin, très probablement, hein, puisque je vous rappelle que... bon.
Oui, on a mis le couvercle dessus, on évite de...
Les conséquences ont
été
bien planquées. Et le slogan, donc, c'était, je vous fais la traduction littérale, hein, c'était pour ce gobelet, mettez-le sur la table avec le son tac. Tac, c'est le bruit que fait un objet quand il cogne une table. Fort malheureusement, tac... C'est aussi l'onomatopée qu'a utilisé en 1987 le chef de la police qui cherchait à cacher la mort sous la torture d'un étudiant donc au commissariat. Et ce décès a entraîné en fait des émeutes très importantes et un soulèvement généralisé qui donc a permis à la Corée du Sud de devenir enfin une démocratie.
Et alors pourquoi TAC ? Pourquoi il avait employé TAC ?
Parce qu'en fait, il a prétexté que cet étudiant serait mort brusquement parce que il
avait tapé trop fort sur la table, ça lui a fait peur.
Voilà, exactement. La police avait fait le son de TAC. Qui donc aurait tué cet étudiant. Malheureusement, c'est voilà, l'utilisation de cette onomatopée est restée dans la mémoire collective. Il n'était donc pas très pertinent de l'utiliser de façon.
Non, mais pourquoi, comment ils sont arrivés là, Starbucks ? Parce que le tank plus le tac, on a l'impression qu'ils l'ont fait exprès quand même.
Ben, c'est ce qu'on se demande. Et, enfin, ce, en tout cas, ce que.
Enfin, il y en a qui ne se le demandent plus puisqu'ils ont viré le mec.
Ce que des familles de victimes se sont demandées, et elles se le sont tellement demandées que donc le PDG a été licencié et le siège américain a évidemment présenté ses excuses. Sachant qu'ils n'y comprennent sans doute à peu près rien.
Ouais, mais ils n'ont rien vu. Et toc.
Une opération marketing pas très réussie.
Et ouais. Alors voilà. Nous, on avait un ancien président de la République qui avait fait pchit. Hein, mais bon.
Oui, alors ça ne faisait pas référence
bah à non, rien du tout. Hein, il avait fait attention.
À des événements aussi douloureux. Parce
il était malin quand même.
Là, quand même, ouais. Le massacre de Guangzhou et la mort de cet étudiant dans un commissariat, c'est quand même des...
Bon voilà. Appétit, Monsieur Kogan.
Pardon, je fais du bruit, pardon.
C'est des traumatismes.
Et puis ne mangez pas votre canard. Hein.
On termine toujours en Corée du Sud avec une nouvelle chouette qui va ravir sans doute Monsieur Kogan. C'est l'ouverture d'un centre Pompidou à Séoul.
Comment ça ?
Et oui.
Le nôtre, il est fermé, ils en ouvrent un là-bas, mais c'est quoi ça ?
Précisément, c'est le troisième centre Pompidou à l'étranger. Le premier est à Malaga, si je ne dis pas de bêtises, le second à Shanghai, il me semble. Alors, ce centre coréen, lui, va ouvrir au public dans les tout premiers jours de juin. Et il présente eh bien, une partie des collections du centre Pompidou de Paris, qui est en travaux, comme vous l'avez indiqué. Pour l'inauguration, il y avait le président du centre Georges Pompidou, français évidemment, et l'ambassadeur de France, évidemment. Et
en quoi c'est une bonne nouvelle ? Les pauvres, ils vont avoir de l'art contemporain ?
Ah ben, a priori, ils sont absolument ravis. On est en Corée du Sud, hein, donc on est sur du financement privé. C'est une compagnie d'assurance qui
est partenaire de ce truc,
voilà, qui devrait rester ouvert jusqu'à la fin de l'année 2026 et même jusqu'en 2027. Afin donc de présenter eh bien ses œuvres au public coréen, voilà. Donc
donc c'est bien parti ou
première expo, ça ouvre début juin au public.
Ah là ils font voilà. D'accord, ils font
voilà,
le
voilà donc là ils ouvrent le
ils font le chauffe le tour
voilà,
de chauffe
exactement. La première expo donc est consacrée au cubisme et il va y avoir a priori alors évidemment beaucoup d'œuvres de Picasso, de Juan Gris, de Fernand Léger et a priori donc le déploiement d'un immense rideau de scène qui a été réalisé par Picasso et que évidemment qui n'avait pour l'instant jamais été montré en Corée.
Là. Ah oui, oh bah, il suffit que Jennie de Blackpink aille y faire un tour, elle fait une petite photo devant et hop, c'est parti.
À mon avis, ça ne sera pas nécessaire.
Ouais, vous pensez, ils vont... Ouais, l'art européen comme ça, ça les...
Alors, d'autant que a priori, en tout cas d'après Yonhap, l'agence de presse sud-coréenne, le cubisme qui s'est développé beaucoup en France... alors c'est des artistes espagnols mais ils étaient en France pour beaucoup en général l'art de cette époque contemporain de cette époque a largement influencé la Corée à ce moment là donc leur inspiration vient beaucoup de France
donc ils connaissent bien
donc,
en tout cas
il y a un lien, il y a une reconnaissance et puis ça intervient aussi pour l'anniversaire de la 140e année des relations diplomatiques entre la France et la Corée.
Très bien, merci Madame Henriette qui a déjà fait chauffer son billet pour Séoul alors puisque Pompidou est fermé, elle va aller le voir là-bas.
Ah, c'est...
Ils ont une idée de qui c'est Pompidou ? Non, ils s'en foutent.
Ce n'est pas dit dans l'article.
Notre premier ministre poète quand même. Bon. Est-ce qu'on a notre poète ?
Alors, il a été président aussi, je vous rappelle.
Ah oui, c'est vrai qu'il a été président parce que l'autre est mort au milieu. Oh, non, c'est lui qui est mort. C'est l'inverse, c'est lui qui est mort au milieu, pardon.
Ça suffit maintenant, tenez-vous.
Bon, pardon, j'ai confondu. Bon, alors, oui, l'autre a démissionné. Il a démissionné, pardon.
Et après, on vient nous parler de la courtoisie et de la politesse.
Ouais, bon, c'est vieux tout ça. Il faudrait faire table rase du passé, n'est-ce pas, Monsieur Kogan ?
Oui.
C'est à vous.
Ah bon, c'est à moi ? Oh là là.
Et oui.
Alors écoutez,
le temps passe.
Eh ben, Bah, pour des raisons techniques, ma chronique d'il y a 15 jours n'est plus d'actualité. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure.
Parce que le film a disparu. Ah bon, on verra. Allez-y, pardon.
Monsieur. Et pourtant, là, juste avant que le cinéma français se découvre enfin une conscience, et qu'à l'instar des auteurs en rupture de chez Grasset, hein, de Juliette Binoche aux petites mains derrière la caméra, un vent de révolte souffle contre l'Empire Bolloré. Bon, ben voilà. Hein. Il y avait donc, il y a quelques semaines déjà, maintenant, la séance des Molières 2026. Et elle était assez prémonitoire, hein, parce qu'elle a sacré la pièce « Le procès d'une vie » sur Gisèle Halimi. Mais il y a eu un sketch mémorable avec la venue du célèbre humoriste écossais Lewis MacLeod. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. En très crédible Donald Trump. Voilà. Where is Jack Lang? We have a friend in common, Jeffrey Epstein. Bon, ça tapait très, très en dessous de la ceinture, cette affaire, quand même, il faut bien le dire, c'était vraiment très bien. Bon, alors, à l'oncle, CNews et Rachida en ont pris pour leur grade à d'autres moments de la soirée. Alors, va-t-on rire autant lors de la remise de la Palme d'Or? Je ne suis pas sûr.
Ouais, c'est pas le même style en général, hein, quand même.
Ouais, je sens que, bon, alors, en tout cas... Gilles Lelouch qui incarne Moulin. Pour certains, est visiblement moins courageux que son personnage, mais en réalité, ce n'est pas mon habitude de défendre Gilles Lelouch, mais peut-être qu'il ne faudrait pas tout mélanger non plus.
Attention, hein, cette émission est collector.
Voilà. Bah oui, mais là, il ne faut pas tout mélanger. Enfin bon, bref, sinon parlons de quelques films, alors, vraiment. Alors tout d'abord... donc un film que j'ai vu il y a déjà quelques jours et que j'espère que vous pouvez encore voir dans certains cinémas puisque moi je le trouve extraordinaire, vraiment bien, Second Island, c'est une adaptation d'un roman de David Vann. Le film est réalisé par le français Vladimir de Fontenay, qui avait été révélé par Mobile Homes en 2017. Et il est très fidèle donc à ce texte de Nature Writing. En l'occurrence, Tom, père un peu perdu, emmène son fils avec lui, son fils âgé de 13 ans, pour vivre un an sur une île dans le Grand Nord. Bon, c'est un peu étrange, mais jusque-là, bon, je dis ça. Rien d'extraordinaire, sauf que les choses ne vont évidemment pas exactement se dérouler comme prévu. Entre tension et signe évident de défaillance paternelle, le malaise s'installe et les problèmes surgissent à l'extérieur comme à l'intérieur de la cabane où les deux protagonistes vivent. Un film qui interroge évidemment sur le passage de l'adolescence, sur l'essentiel dans une vie, sur la survie tout simplement, la folie aussi, vous avez bien compris. Alors les images sont magnifiques, la pureté de la nature contraste avec la faiblesse humaine. C'est un beau film, donc avec Woody Norman en ado très intelligent, et puis le fabuleux Swan Arlo, voilà, qui n'en finit pas d'être excellent. Voilà. Autre film, autre ambiance, autre époque. Damiano Michelito, film des opéras. Mais là, il nous emmène dans le Venise décadent du XVIIIe siècle, où on entre, grâce à Vivaldi, maître de musique désargenté et souffreteux, dans une institution pour jeunes filles, qui sont placées là, souvent abandonnées par leur famille.
C'est horrible, Monsieur Kogan, parce que je voulais voir ce film et pour l'instant, il n'était pas à l'affiche où j'habite.
Il va l'être. J'espère. Là, un orchestre s'y ennuyait jusqu'à ce que Antonio arrive et qu'il voit très vite en Cecilia, donc une des violonistes, une grande musicienne en devenir. Et celle-ci va non seulement se révéler en tant que telle, mais elle va aussi apprendre à s'émanciper, bien sûr, et, Et sa soif de liberté va l'emporter, en tout cas, en partie. Vivaldi et moi n'est certes pas sans défaut, mais ce biopic, en tout cas ce semi-biopic, est un vrai hommage à la belle musique, à la quête de soi, et c'est vraiment agréable de bout en bout. Donc je vous le conseille, monsieur Edmond.
Mais j'avais vraiment envie de le voir, hein, mais pour l'instant, j'espère, je croise les doigts.
Donc on souhaite une belle carrière à Tecla Insolia qui joue Cecilia. Donc voilà, très bien. Alors évidemment, il faut en parler. Il faut en parler, on n'a pas le choix. Non, je vous vois venir. Je ne vais pas parler de The Mandalorian and Grogu.
Bah si, vous avez parlé de l'Empire du Mal tout à l'heure.
Non, évidemment. Je suis allé voir L'Abandon ou Les 13 derniers jours de Samuel Paty. Bon, alors, Vincent Garinck est un habitué des films compliqués, on va dire. Hein. Le garçon aime faire des films sur des thèmes difficiles, voilà. On se souvient de Présumé coupable sur l'affaire Doutreau ou encore sur l'affaire Clestream, l'enquête. Bon, bah là, il s'attaque à un sujet nettement plus sensible. Hein. Bon, alors vous allez me dire, l'évasion fiscale et la pédophilie et les erreurs de les fautes judiciaires, c'était bien. Mais comment dire, le terrorisme islamiste, on franchit une étape. Et certes, il y a des polémiques autour du film, bien sûr, non seulement sur le financement de ce film, mais aussi la proximité du procès en appel, l'agenda électoral, etc. etc., etc. Enfin, il n'y a jamais de bon moment pour faire un film, de toute façon. Certainement pas un film comme ça. Alors, de quoi ça parle ? Bon, ben, tout est dans le titre, hein. On suit pas à pas, sans mauvais jeu de mots, ce prof de banlieue accusé injustement par une élève et puis victime de petites lâchetés. Voilà, d'où le titre, L'Abandon. Victime d'un engrenage infernal que beaucoup d'entre nous, évidemment, qui se sont intéressés à cette affaire, connaissent. Mais pour celles et pour ceux qui, particulièrement les plus jeunes, ne connaissent pas tous les détails, ben sachez qu'on est bien sûr complètement captivés, hein, pour ne pas dire captifs, du siège dans notre salle de cinéma jusqu'à la fin. Bon, ben, le propos du film fait que ben, le film est bien sûr totalement clinique, hein, je ne sais pas comment dire ça autrement, extrêmement détaillé, et puis inéluctable. Ben oui. Alors, Antoine Reinhardt révélé dans 120 battements minutes, qui depuis a fait une carrière relativement excellente. Hein. Il était glaçant dans Anatomie d'une chute. Bon, ben là, là, il relève quand même un défi. Hein. C'est incarner une icône. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Un personnage quasiment sacré. Je mets des guillemets, mais bon, c'est un peu le cas. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il réussit. Il réussit là où, à mon avis, beaucoup auraient échoué. C'est-à-dire qu'il met suffisamment d'humanité et suffisamment de neutralité, c'est assez étonnant, dans l'incarnation de ce personnage pour qu'on se fasse notre propre opinion sur la situation. Et puis voilà, je ne peux que conseiller ce film, mais évidemment, je préviens nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas bien l'affaire de se préparer quand même. Genre, c'est pas le film où faut aller avec des pop-corns, tout ça. Hein, ou alors peut-être que si, peut-être qu'il faut le regarder avec une certaine distance pour éviter de sombrer dans l'émotion. En tout cas, je ne sais pas, mais il en faut des films comme ça, même s'ils créent des débats, même s'ils sont plus ou moins polémiques, voire politiques. Bah écoutez, il faut des films qui nous permettent de réfléchir. Et une fois qu'on a passé l'émotion, la première émotion, et bien c'est un film qui fait réfléchir. Donc voilà, alors je voulais être plus léger en vous parlant des hommages, mais comme dirait l'autre, c'est pas vraiment.
Les hommages non plus, c'est pas vraiment léger.
Ah, puis là, vous avez du stock du coup.
Ah bah là, j'ai un petit stock, mais je vais essayer de résumer parce que sinon, on va y passer la nuit. Mais je finirai par des anniversaires, d'accord ?
Oui. Mais très bien, Monsieur Kogan.
C'est bien les anniversaires aussi.
Bon, alors le monde du cinéma a dit au revoir à un certain nombre de personnes. Alors, certaines sont connues, d'autres moins. Claire Maurier était une actrice française qu'on avait vue dans Amélie Poulain ou La Cage aux Folles. Vous voyez, c'était une actrice française très âgée. Michael Pennington était un acteur anglais qui avait joué entre autres dans Star Wars 6 et dans quelques séries. Günther Maria Almer était un de ces acteurs allemands qui avait joué dans Gandhi ou dans Un train pour Petrograd. David Burke, moi je me souviens très bien de lui puisque c'était Watson dans la première saison de la série Sherlock Holmes. Voilà, et c'est le père de l'acteur Tom Burke d'ailleurs. Anja Breinen était une réalisatrice norvégienne. Jack Taylor était un de ces acteurs américains qui a commencé sa carrière dans les westerns et qui a tourné après avec Foreman, Milius, Ridley Scott, Mankiewicz, enfin bref, un de ces acteurs qui a toujours été dans les seconds rôles mais qui a fait une énorme carrière. Alexander Held, lui, a joué dans La Chute ou dans La Liste de Schindler. Voilà, ce qui pour un acteur allemand n'est peut-être pas très original, mais finalement, voilà. Donald Gibb, lui, c'était plutôt ce genre d'acteur qu'on voyait dans les films musclés, genre US Marshals ou Bloodsport. Angelica Domroz était une actrice allemande, plutôt est-allemande même. Tom Kane était connu pour faire les voix dans plusieurs séries Star Wars. Voilà, c'était un acteur qui n'est pas très vieux. George Eastman. Alors là, voilà un acteur italien et scénariste italien qui a tourné dans à peu près tout et n'importe quoi dans les années 80 et 70-80. Des musiciens aussi, bien sûr. Ike Willis, qui était chanteur et guitariste de Frank Zappa, entre autres. Ike Willis, pardon. Sophie Garrel, hein, qui n'était pas qu'une speakerine, qui était aussi une chanteuse. Je ne savais pas. Voilà. Claudine Longer, alors derrière ce nom très français se cache une actrice française et une chanteuse des années 60, mais enfin surtout une actrice qui a tourné aux États-Unis. Voilà. David Alan Coe était un chanteur de country. Bobby Murray, guitariste de blues. Seymour Bernstein, pianiste qui a vécu très longtemps, pianiste américain. Donald McRae, chanteur de folk écossais, évidemment. Jörg Vadenius est un guitariste de jazz suédois. Abdouhab Doukali était un chanteur et compositeur marocain. Romuald Figuier, chanteur français. El Cabrero, chanteur libertaire de flamenco. Alors, un personnage assez étonnant, assez fascinant. Je vous conseille d'aller écouter ça, El Cabrero. Clarence Carter était un chanteur et guitariste soul américaine. Dans les autres expressions artistiques, on peut noter évidemment Georg Baschelitz, qui était un peintre, Marcel Labine, qui était un poète québécois, René Gobly, photographe suisse, Koji Suzuki, écrivain de science-fiction et d'horreur japonais, bien sûr, et entre autres le créateur de Ring. Voilà, ça ne lui a pas porté chance d'écrire des trucs aussi affreux. Anna Ritchie, archéologue et britannique, et entre autres, une des personnes qui a fouillé sur un endroit qui est magnifique, qui s'appelle Knap of Ower, et qui est une espèce de ferme néolithique dans les Orcades. Basekba Kobio, qui est un écrivain et réalisateur camerounais. Valley Export, qui était une photographe autrichienne. Après Jean Arlès, qui était un documentariste belge, et Silvio Benedetto, qui était un peintre argentin. Mais je ne peux pas ne pas citer une personne que je ne connaissais pas, mais qui était quand même quelqu'un d'important à mes yeux. Ofer Bronstein était un familier de certains plateaux sur Arte. C'était le président du Forum international pour la paix. Et en ces heures, c'est une voix utile qui s'éteint. Et puis, eh bien, je finirai en rendant hommage à mon ami, écrivain et chanteur en français et en occitan, Jean Alhambre, voilà, qui s'est éteint il y a quelques jours. Et voilà, adieu. Mais j'avais dit que je ne terminerai pas avec des choses tristes, donc avant peut-être quelques dates si on a le temps, mais si on n'a pas le temps, c'est tant pis.
Si, il y aura le temps, Monsieur Kogan, allez-y pour les anniversaires.
Alors, que s'est-il passé le 25 mai 1977
ah, est-ce que c'est en lien avec le punk?
Non.
Ah, oh, mais c'est nul alors.
Oh, bah, c'est du cinéma.
Du cinéma 77. En 77.
C'est le début de la saga Star Wars? Non, c'est trop tôt.
Eh ben oui.
Ben si, bravo. Madame Henriette, c'est l'année. Bravo.
Exactement, c'est la sortie du premier film Star Wars, que maintenant on requalifie en étant l'épisode 4, mais en fait, bon, ben voilà. Voilà. Alors malheureusement, j'avais 5 ans, mais donc je ne l'ai pas vu au cinéma, celui-là, mais voilà, c'était Star Wars. Voilà. Et donc, ce lundi, nous souhaiterons un joyeux anniversaire à 4 des personnes qui auront le plus marqué le cinéma pour moi. Alors, une un peu moins que les autres, mais... Frank Oz, évidemment, on vient de parler de Star Wars. Frank Oz, c'est un personnage mythique pour les fans de Star Wars, mais pas que, hein, c'est aussi un personnage mythique pour tous les personnages de, comment dirais-je, en marionnettes, hein, du cinéma et de la télévision. Voilà. C'est aussi l'anniversaire, bon, 82 ans, Frank Oz. Mike Myers va fêter ses 60 ans.
Mais non, combien, Mike Myers?
63 ans. Eh oui, je savais que ça vous amuserait.
Wayne et Campbell.
Et un petit peu moins amusant, mais voilà, deux des plus grands acteurs de leur génération. Alors, vous allez me dire, un Irlandais et un acteur shakespearien, mais Cillian Murphy va avoir 50 ans, et ça, c'est incroyable. Et Ian McKellen, qui va dans quelques semaines reprendre le rôle de Gandalf, donc à 87 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit qu'il faisait se dépêcher de faire des films, si on voulait l'employer encore, hein, avec une certaine distance, je trouve, face aux choses. Donc voilà, c'est assez amusant. Côté date, si vous voulez, quelques dates.
Moi, je pense que Madame Henriette a un anniversaire aussi, quand même. Parce qu'elle l'a suivi de très, très près, cet anniversaire.
Ah, bah,
oui, évidemment. Il y a quelques jours, l'anniversaire...
Ça a mis toute une nation en émoi, quand même.
Bien sûr, les 100 ans de David Attenborough. Bon, ah, évidemment. Oui, absolument. Bon, voilà. Bon, mais là, c'est un événement, même pas national, puisque tout le Commonwealth était en ébullition. Hein. Voilà.
Dites oui, un mot quand même pour ceux qui ne connaissent pas, quel est ce personnage? Alors, parce que 100 ans tout là, quand même.
David Attenborough, qui a d'ailleurs un lien familial avec le cinéma, hein, puisque c'est le frère cadet de Richard Attenborough. David Attenborough, donc le célèbre naturaliste
tous ceux qui ont vu la BBC une fois dans leur vie
connaissent, puisqu'il a fait plus d'un demi-siècle de documentaires animaliers. Il a une voix reconnaissable. Très reconnaissable. Donc voilà, il a fêté ses 100 ans et puis bon, on espère qu'il va fêter ses 101 ans l'an prochain. Hein.
Comme vous y allez, madame.
Ah, bah oui, écoutez, non, il y a des gens qu'on a envie de garder sur Terre.
Bon, très bien. Alors, monsieur Kogan, pour quelques dates?
Alors, oui, alors je commence quand même par vendredi 22, même si vendredi 22. C'est le jour où vous entendez cette émission, mesdames, messieurs. Alors, ce vendredi 22 est important parce qu'il y a des festivals. Et oui, il y a le festival à la Selle Dunoise, par exemple, voilà, du 22 au 24 mai. Il y a aussi le festival Graines de Rue qui continue. Voilà, c'est à Bessines-sur-Gartempe. Hein, c'est un festival qui est assez installé puisqu'il s'agit de la 28e édition. Le festival de théâtre de Feltin aussi ce week-end, donc du 22 au 24. Et le festival Mimi à Limoges et à Nexon. Voilà, donc c'est des choses dont on a relativement toujours parlé dans cette émission, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Il y aura un concert Jazz and Blues à Arche, si je ne m'abuse, à 19h15. Voilà, c'est deux rues du Four à l'Arche. Et puis, pour revenir remarquez, je vais faire un peu les trois départements sans distinction. Une conférence gesticulée qui s'appelle burnout.com. Voilà, ce sera à la Ruchidée à Limoges à 19h30. Un concert Kodiak Zydeco, Chanson Cajun, eh bien, ce sera au Limoges à 21h ce vendredi. Mais grosse affiche ce vendredi au Centre culturel Ifuré. Voilà, grosse affiche, donc c'est en Creuse, hein, bien sûr.
À la souterraine.
Absolument, grosse affiche, puisque c'est la venue d'Audrey Vernon. Alors, s'il y en a qui ne sont pas familiarisés avec cet humour-là, c'est quand même un humour assez caustique. Mais moi, je le trouve plutôt bien, plutôt sensé. Voilà. 22-23 mai, c'est aussi deux des trois jours de représentation pour la pièce Le Petit Bonheur, la Chance par la Roulotte Écarlate. C'est un Aurillac, donc à 20h30. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Les Human Toys joueront au Petit Jourdan ce samedi à 19h. Les Attic Sharks, eux, joueront rue de Toulouse, donc c'est à 20h, au 194 rue de Toulouse. Les gens connaissent ce lieu, en l'occurrence, je ne voudrais pas me tromper sur le nom exact, c'est le 3XL toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Donc le concert d'ouverture de l'Open Mazda aura lieu donc à Bessines-sur-Gartempe. C'est à 20h30. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que c'était que ça. Mais bon, le titre m'a beaucoup parlé. Alors, en réalité, c'est un événement de tennis et c'est le groupe donc The Others, groupe de reprise de rock, qui fait donc cette ouverture. Un gros événement autour de l'Ukraine. La semaine prochaine, donc du 26 au 30 mai, avec beaucoup de conférences, une exposition, des ateliers, des projections de films, de la musique aussi. Donc, je vous conseille d'aller vous renseigner. Alors, je pense qu'il y a tout sur la page de la ville de Limoges. Voilà. Mais parmi les événements vraiment intéressants, il y a quand même une conférence de Nicolas Tenzer le 30 mai, alors peut-être que j'en reparlerai, et puis un concert donc le samedi 30 d'Ukrainka, donc de la poésie, de la danse et du chant, donc en clôture. Mais voilà, ça me semble tout à fait intéressant. Il y a une conférence aussi avec de Cyril Amorski, Culture dans la guerre. Voilà, ça je pense que ça peut être bien, et c'est le vendredi 29. Un jam Ragano Back to Limoges au Limoges, bien sûr, à 20h. Un comedy club, vous en avez l'habitude, donc rue 5 rue Louis Lagrange, hein, dans ce lieu tout à fait sympa,
à deux pas de la cathédrale.
Non, à deux pas de la place Marceau.
Je confonds
le Troquet culturel. Voilà, évidemment. Alors pour ceux qui aiment la grande musique, comme on dit entre voilà, on peut aller écouter de l'orgue. C'est le jeudi 28 mai et puis c'est à l'église, c'est dans une église, je pense.
Un orgue souvent quand même, hein, ou alors faut le déplacer, c'est compliqué.
Ah oui, non, c'est galère. Hein.
Bon, alors
dans une église, chers auditeurs, hein, c'est facile.
Le concert d'orgue au Petit Jourdan, je le sens pas.
Voilà, donc l'orgue du Sacré-Cœur de Limoges. Donc, je pense que les habitués connaissent cet endroit, l'église du Sacré-Cœur. Voilà, c'est rue François Perrin. Je pense que vous n'allez pas me voir, mais bon, je voulais quand même le citer parce que peut-être que je voulais me faire pardonner de ce que je vais annoncer après, mais on en reparlera peut-être parce que avant d'annoncer quelque chose qui me tient à cœur, il y a des musiques bulgares à Angers, c'est le 29 mai, ça s'appelle Guvec à 19h30 au Limoges. Il y a aussi, qu'est-ce que j'ai vu de marrant? Alors d'important, il y a un festival. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus?
Est-ce que vous voulez qu'on parle de Guinée un petit peu?
Est-ce qu'on parle de la Creuse?
Oui.
Oui, on parle de la Creuse. Parce que le samedi 30, il y a un concert. Il y a un concert à Jarnage. Il y a souvent des trucs à Jarnage qui est rigolo. Ce qui est rigolo. Ouais. Alors, c'est une soirée. Musique actuelle, hein, on va dire ça. Et donc, c'est samedi 30 mai à 21h à l'Alzire, hein, c'est l'auberge culturelle de Jarnage. Voilà, et donc, c'est Santao et Pumpkin. Je pense que ça va être assez rap, en fait. Voilà, mais peut-être que vous vouliez nous citer d'autres choses. Alors, sur la Creuse, je voulais quand même dire qu'il y a une pièce le 28 mai 2026, qui s'appelle Le Cœur des Femmes. C'est la compagnie Actunique qui jouera donc ce texte d'après Martin Vinclair. Hein. Et donc, c'est à l'espace Fayol à 20h30 le 28 mai.
Et ce sera la clôture de la saison théâtrale de la Guérétoise dont nous avions de la Guérétoise dont nous avions reçu le directeur Hervé Herp il y a quelques semaines. Une pièce d'ailleurs en partenariat avec le théâtre Artéphile d'Avignon. Donc voilà, ce sera sans doute une fin en apothéose pour cette saison.
Eh bien, comme quoi, voyez, c'est super.
Alors, ce qui vous tenait à cœur, Monsieur Kogan, parce qu'après, il va falloir conclure, vous comprenez.
Ah, pardon.
Vous avez le temps.
Encore du théâtre, évidemment, à Limoges, avec Des Valises sous les yeux. C'est le 27 et 28 mai à Nauriac, donc c'est la troupe Le Théâtre du Printemps. Et puis, à Bellac, le 29 mai à 20h, ça s'appelle Rêve et Merveille. Et en fait, c'est le spectacle de l'option théâtre du lycée Jean Giraudoux de Bellac, bien sûr. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas citer dans les événements le festival que j'attends tous les ans. Alors ce festival que j'attends tous les ans…
Est-ce qu'il est au bord d'un lac?
Est-ce
qu'il est vers un camping?
Voilà, alors je m'excuse pour Sam… pour Sam Sauvage, que je n'irai pas voir à Tulle le samedi 30 à 20h30, puisque, écoutez, peut-être que je vais… peut-être que cette année, je ne pourrais pas aller à Tulle, mais voilà, bien entendu, je voulais vous parler du festival Rock Metal Camp, 13e du nom, à Saint-Hilaire-les-Places, bien sûr, à côté du lac de Plaisance. Alors, je rappelle que ce festival, qui se déroule sur deux soirs, donc vendredi 29 mai et samedi 30 mai, en l'occurrence, cette année… Et donc, fonctionne avec une entrée gratuite et vous pourrez avoir des groupes qui viennent de toute l'Europe jouer dans tous les styles de métal différents. Voilà. Et puis, quand je dis toute l'Europe, c'est vraiment toute l'Europe. Hein. Il y a des Tchèques, des Suédois, des Hollandais, des Italiens, des Allemands, des Français, bien entendu, et des Britanniques. Donc, voilà. Finterfrost, Yord, Audrey Dear, Greenpad, Kozoria. Il y a quand même 2-3 groupes qui vont piquer sérieusement. Voilà. Donc, si vous voulez passer un moment étonnant avec toujours évidemment des stands très sympas, mais surtout dans une ambiance très, très détendue
et très familiale. Cool.
Très familial, avec évidemment des stands de burgers Limousin et des frites, mais aussi sans doute un stand plus végé. Voilà, toujours, c'est sans doute Greenville, comme tous les ans. Et puis, de la bonne musique et de la bonne ambiance. Voilà. C'est donc le 13e Rock Metal Camp de Saint-Hilaire-les-Places.
Oui, pour la 13e édition, ça risque d'être assez exceptionnel.
Allez, il est temps de conclure, donc merci, monsieur Kogan. On se retrouve à Saint-Hilaire alors. À bientôt.
Bonne semaine à tous. À bientôt.